Donc, nous laissons la parole à notre conférencière Sylvie Beltrami. Sylvie, c'est à vous.
Merci. Alors, je remercie évidemment C3V de me donner l'occasion d'aborder ce soir avec vous la question des pesticides. Bon, je vous cache pas, c'est un peu déstabilisant de parler ainsi devant un téléphone sans voir ses auditeurs, et je vais réclamer votre indulgence pour les bafouillements prévisibles. Je veux aussi tout de suite préciser que je ne m'exprime pas ici en qualité d'experte, parce que j'en suis pas une, mais en tant que militante associative. Je suis membre de l'ADENI depuis sa création en 1989, ce qui ne nous rajeunit pas, et aussi porte-parole du collectif 89 Action citoyenne OGM Pesticides. Bon, sur la question des pesticides, la première chose à dire, c'est qu'il n'est pas possible de le sortir de son contexte. Son contexte, c'est le système agricole productiviste actuel. Et donc, en fait, ça dure depuis plus de 50 ans maintenant, où on a vu progressivement s'installer les monocultures sur des parcelles de plus en plus grandes, avec des variétés qui ont été sélectionnées pour leur rendement. Et c'est ça qui est devenu la norme agricole. Alors, ces variétés ne sont pas adaptées à tous les types de sols. Elles sont bien sûr productives, mais comme elles n'ont pas été sélectionnées pour leur résistance, elles sont fragiles, ces plantes. Ce sont donc les terres que l'on adapte, tant bien que mal, aux plantes. On les adapte avec des engrais pour nourrir les plantes. Ce sont des minéraux de synthèse. Hein. On a aussi des herbicides pour tuer les plantes concurrentes, des fongicides pour lutter contre les maladies cryptogamiques et des insecticides pour tuer les ravageurs. Ça, c'est les trois principaux, mais il y a d'autres catégories de pesticides encore. Or, c'est aussi grâce à ce modèle agricole qu'on a en parallèle développé l'élevage industriel hors sol que l'on connaît aujourd'hui. Lui-même, cet élevage industriel hors sol est très dépendant de produits biocides du fait de la promiscuité des animaux au sein de ces élevages. Et évidemment, gros consommateur d'antibiotiques également. Donc, si on veut faire très bref, en résumé, il n'y a pas d'agriculture productiviste sans pesticides et sans engrais chimiques. Et réciproquement, parce que finalement, les autres types d'agriculture n'ont pas besoin de ces produits ou excessivement peu besoin de ces produits. Que là, je parle à la fois des agricultures vivrières qu'on pratique encore dans de nombreux pays, et je parle aussi de l'agriculture biologique qu'on connaît chez nous et partout ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Alors donc, d'une certaine façon, essayer de supprimer les pesticides sans revoir radicalement notre façon de produire des denrées alimentaires est d'avance voué à l'échec. Bon, alors, ce qu'on peut se demander, c'est si, à défaut de les supprimer, ces pesticides, on peut au moins les réduire. Alors de fait, en 2007, le Grenelle de l'environnement, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, a postulé que c'était possible. Et du coup, on a élaboré un premier plan appelé Écophyto. Bon, il a été élaboré en 2008. Et ce plan prétendait réduire de 50% les quantités de pesticides utilisées en France à l'horizon 2018. Ça a été un fiasco. Alors, si je reprends les propos de Stéphane Foucart, le journaliste du Monde spécialiste des sciences de l'environnement, qui en a fait un suivi et une analyse complète, l'échec du plan Écophyto provient surtout de l'absence de prise en compte, bien qu'elle ait été recommandée en amont par les scientifiques, des coûts cachés des pesticides. Alors, les coûts cachés, c'est ce que coûte à la collectivité l'utilisation actuelle de ces produits en soins médicaux, en traitement de l'eau potable, parce que oui, l'eau potable est polluée par les pesticides, donc ensuite on a besoin de la traiter, et en érosion des services que les écosystèmes fournissent gracieusement quand on leur fiche un peu la paix. Alors là, c'est la pollinisation, c'est la régulation des ravageurs par d'autres prédateurs. Chaque ravageur a un propre prédateur dans les insectes, par exemple. Et puis aussi, et c'est un coup de pied à l'âne, là, c'est un coup de pied de l'âne, c'est ce que coûtent aussi les plans de réduction de l'usage des pesticides. Bon, en réalité, ce qu'on constate, c'est que rien n'a été fait pour que l'intérêt économique du changement de pratique agricole apparaisse clairement à la fois aux agriculteurs et aux décideurs politiques. Et c'est pour ça que du coup, rien n'a changé ou presque. Alors, je vais parler de ça parce que c'est quand même, il faut le dire, malgré quelques fermes modèles, ce sont les fermes du réseau DEFI qui montre qu'il est possible de réduire les pesticides de 30% sans perte de bénéfice. Au contraire, dans ces fermes, la légère perte de rendement qu'on constate avec un moindre usage des pesticides est plus que largement compensée par le moindre coût des traitements à effectuer. Alors pour en venir à ce réseau des fermes DEFI, il faut savoir qu'il rassemble plus de 3000 exploitations agricoles engagées dans une démarche volontaire de réduction de l'usage des pesticides. Mais il s'agit bien de fermes qui sont en agriculture dite conventionnelle. Alors, ce réseau de fermes est adossé à un réseau plus restreint qui s'appelle le réseau XP DEFI et qui, lui, réunit une quarantaine de porteurs de projets répartis sur environ 170 sites expérimentaux. Et c'est ce réseau-là, plus restreint, qui permet de concevoir, de tester et d'évaluer des systèmes de culture qui visent une forte réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Ce qu'on peut dire, c'est que, hélas, ces fermes DEFI n'ont pas fait assez d'émules pour que ce soit significatif globalement sur la ferme France en termes de réduction des pesticides. Bon, depuis ce plan Ecophyto 1, celui de 2008, il y a évidemment eu un plan Ecophyto 2, puisqu'on s'est rendu compte que le premier n'apportait pas les résultats attendus. Eh bien, ce plan Ecophyto 2, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il n'a pas eu plus de succès que le premier. 12 ans plus tard, la France reste un des champions mondiaux pour l'utilisation des pesticides. Par exemple, en 2017, il s'est vendu plus de 3000 produits pour un total d'environ 70 000 tonnes. Bon, c'est sensiblement les mêmes tonnages et le même nombre de produits vendus en 2018. J'ai pas les chiffres de 2019, donc. Mmh. Alors, si on le sait maintenant, et plus personne ne le nie, les pesticides posent de sérieux problèmes environnementaux et sanitaires, les deux. Et bien sûr, il faudrait une soirée entière pour parler de la contamination de l'eau des captages et des rivières. Il faudrait une autre soirée pour s'intéresser aux résidus qu'on trouve dans les produits alimentaires. Il en faudrait encore une autre pour les effets sur les insectes pollinisateurs et en général la biodiversité. Le champ est très vaste en fait. Hein. Donc ce soir, je vais surtout parler, essentiellement parler, de la contamination par voie atmosphérique. Si je fais ce choix, c'est dans le contexte actuel des zones de non-traitement, en abrégé les ZNT, et des chartes départementales actuellement en consultation. Donc, pour en venir à cette contamination par voie atmosphérique, je fais un petit retour en arrière. Mais petit, vous allez voir, hein, c'était en juin 2019, le Conseil d'État annulait en partie l'arrêté ministériel du 4 mai 2017. Cet arrêté concernait la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants. J'utilise le mot qui est cité dans cet arrêté, hein, phytopharmaceutique, moi je parle de pesticides. Le Conseil d'État a estimé que cet arrêté ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l'environnement. Et en fait, il ne le fait pas, cet arrêté, parce qu'il ne prévoyait aucune mesure générale destinée à protéger les riverains des zones agricoles traitées. Et c'est du fait de cette absence de mesures destinées à protéger les riverains que ça avait provoqué le recours de plusieurs ONG qui ont saisi le Conseil d'État et l'annulation partielle du Conseil d'État. Bon, il va de soi que le problème de la contamination des riverains n'est pas fantasmé, hein, il est bien réel, et le risque sanitaire l'est tout autant. En fait, ça fait déjà un certain nombre d'années que les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, il y en a dans chaque région, la nôtre s'appelle en Bourgogne-Franche-Comté, s'appelle Atmo Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. À Paris, elle s'appelle Air Paris pour Île-de-France. Voilà. Et puis, il y en a dans chaque région. Et depuis que ces associations agréées mènent des analyses pour rechercher la présence de pesticides dans l'air, depuis, chaque fois, les résultats ont toujours été positifs. Autrement dit, on a toujours trouvé des pesticides à mesurer. Et les pesticides qu'on a retrouvés sont loin d'être anodins. Par exemple, l'étude Expert de Génération Future 2017, qui a collecté l'ensemble des résultats d'analyse de ces associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, a montré que un peu plus de 56% des quantifications de pesticides dans l'air étaient des pesticides soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce qu'il est nécessaire que je précise ce que
peut-être,
c'est
peut-être. Peut-être, bon, donc, pas mal. Merci Sylvie. Oui.
Alors, je peux donner la définition officielle de l'OMS de 2012, et puis après, je ferai un plus bref. Alors, pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou bien un mélange de substances exogènes, c'est-à-dire non produits par le corps humain, qui altère les fonctions du système endocrinien et qui induit des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, voire sur celle et sur celle de ses descendants. Bon, en fait, pour être bref, les perturbateurs endocriniens sont des produits qui agissent comme des hormones naturelles et qui viennent perturber notre système hormonal. Alors je dis notre parce que nous on est humains, mais ils perturbent de la même façon le système hormonal des mammifères, des poissons, des oiseaux, etc. etc., etc.
Bon, bah, c'est clair comme ça. Ouais.
Donc, c'est dans ce contexte de connaissance de ces problèmes-là qu'en 2019, plusieurs maires, dont celui de Langouette en Bretagne, que tout le monde connaît maintenant, ont pris des arrêtés interdisant l'épandage de pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Évidemment, les préfets ont saisi la justice administrative et ont obtenu le retrait de ces arrêtés. En fait, le reproche qui a été fait aux maires, et ce qui leur a été opposé, c'est qu'ils sortaient de leur domaine d'intervention d'élus locaux, en voulant protéger la santé de leurs administrés. C'est un fait, cette tâche de protection de la santé des citoyens incombe à l'État. Mais c'est bien là qu'est tout le problème, parce que les élus se substituaient à un État qu'ils jugeaient défaillant et inactif, et que nous tous pouvons considérer comme défaillant et inactif en la matière. Du coup, prié de revoir sa copie par le Conseil d'État, évidemment, le gouvernement n'a pas tardé à sortir un projet de texte pour remplacer l'ancien. Et il l'a mis en consultation publique durant l'automne 2019. Il y a eu, lors de cette consultation publique, plus de 53 000 contributions déposées par des citoyens comme vous, comme moi. Tous très majoritairement opposés aux distances de sécurité qui étaient proposées par ce projet de texte et qui étaient jugées insuffisantes. Le ministère de l'Agriculture n'a pas modifié son projet de texte et n'a tenu aucun compte de cette mobilisation citoyenne. Le ministère s'est abrité derrière l'avis de l'ANSES. Alors, je redis, l'ANSES, je précise, l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc, en s'appuyant sur un avis de l'ANSES, il a maintenu les zones de non-traitement qu'il avait prévues de 5 mètres et de 10 mètres selon la hauteur des cultures traitées. Alors 5 mètres pour les cultures basses, les céréales par exemple, 10 mètres pour les cultures dites hautes, l'arboriculture, les vergers, les vignes par exemple. Ces zones de non-traitement, qu'on appelle ZNT, sont quand même portées à 20 mètres si les pesticides qui sont utilisés en pulvérisation sont classés très toxiques, c'est-à-dire CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique. Donc pour ces produits-là, pas moyen de réduire la distance en dessous de 20 mètres. Bon, donc cet avis de l'ANSES, derrière lequel s'abrite le ministère, il est un peu suspect, parce que l'ANSES elle-même précisait en préambule de cet avis qu'elle ne disposait pour le rendre que de données qui dataient des années 80 et qui portaient uniquement sur des expositions de riverains situées à moins de 10 mètres des parcelles cultivées. Ce qui signifie qu'on a pris des décisions sur la base d'informations aussi peu documentées et de surcroît vieilles de plus de 30 ans. Donc rien que ça, en soi, c'est un scandale. Des informations, on aurait pu s'en procurer d'autres plus récentes, ne serait-ce que le travail qui a été fait par les ONG durant ces 30 années. Donc, le décret et l'arrêté d'application ont finalement été adoptés, évidemment, vous vous en doutez, et publiés en décembre 2019 au Journal officiel. Ces textes, en plus, prévoient la possibilité de réduire des ZNT déjà ridicules de 5 et 10 mètres à 3 mètres et à 5 mètres, sous les deux conditions suivantes. Petit 1. Une charte départementale doit être adoptée et, petit 2, le matériel d'épandage qui est utilisé doit être muni d'équipements qui réduit la dérive d'au moins 66% par rapport à un matériel standard. Je vais expliquer ce qu'est la dérive. parce que ça peut être utile.
Oui.
Alors, ce qu'on appelle dérive en la circonstance, quand on pratique de l'épandage, c'est le phénomène de diffusion atmosphérique des pesticides sous forme de micro-gouttelettes ou bien de brouillard. Et ces micro-gouttelettes ou ce brouillard, pour peu qu'il y ait une nébulisation, autrement dit, hein, pour peu qu'il y ait du vent, même si ce vent est léger, ça aide à faire voyager sur plusieurs centaines de mètres, voire même au-delà, les pesticides depuis leur lieu d'émission. Donc cette dérive, il est effectivement capital de la réduire. Mais ça ne suffit pas, c'est très volatile. Il y a des pesticides extraordinairement volatiles. Il en est un dont le nom m'échappe, hein, qui n'est pas autorisé en Suède, mais qu'on retrouve en Suède, alors qu'il n'est utilisé que dans des pays du sud de l'Europe. C'est vous dire si ça peut voyager loin. Bon, à ce sujet, donc, le collectif InfoMédoc Pesticides, qui est basé à l'ISTRAC dans le Médoc, a procédé en 2019 à des analyses d'échantillons de poussière, justement pour vérifier, pour essayer de savoir si ces pesticides voyageaient et si on les retrouvait dans les maisons, dans les écoles. Donc ils ont prélevé des échantillons de poussière dans l'école du village et dans des habitations situées jusqu'à 500 mètres des parcelles cultivées. Alors, chez eux, c'est de la vigne, hein, et la vigne est traitée, beaucoup traitée, et par des produits très dangereux, des fongicides en général. Or, dans tous les échantillons qu'ils ont pris, ils ont trouvé des résidus de pesticides. C'est bien le signe que les particules de pesticides circulent, et ce, en dépit de la précision des buses avec lesquelles ils sont répandus sur les vignes. Parce que sur les vignes, justement, il y a des systèmes antidérives déjà largement répandus. Bon, il y a une autre étude allemande qui date de 2017, elle n'est pas vieille, hein, elle non plus, et qui a montré que les aires de jeu pour les enfants, qui sont dans les villes et les villages, dans le cœur des villes et des villages, sont contaminées par les épandages qui sont effectués dans les champs autour de ces villes et de ces villages. Enfin, il y a une autre alerte sur le fait que ces pesticides voyagent dans l'atmosphère, c'est la campagne épaisseur de glyphosate, qui a eu lieu l'an dernier. Elle montre une imprégnation de la population, y compris pour des gens qui se nourrissent exclusivement en bio. Et en fait, ce qui fait penser que l'imprégnation provient vraiment des épandages et des contaminations atmosphériques, c'est le fait que, par exemple, en Côte d'Or, trois campagnes de recherche de glyphosate dans les urines ont été faites, une en février, une autre fin avril et une autre en juin. En février, l'imprégnation des gens était très faible et elle a augmenté. Elle était plus forte en avril et elle était vraiment encore plus forte au début juin. Et en fait, elle a grandi en même temps que le pesticide était utilisé, que le glyphosate était utilisé pour désherber. Enfin, il y a une dernière alerte du même type. Là aussi, c'est l'exposition des riverains et des travailleurs des vignes du Bordelais qui reste préoccupante. Et là, c'est une autre enquête d'InfoMédoc Pesticides, une enquête qui s'appelle Apache. C'est le deuxième volet de cette enquête. Là, on est allé faire des prélèvements de cheveux et des analyses de pesticides agricoles dans les cheveux des personnes. Or, les résultats ont montré que 70% des pesticides qu'on retrouvait chez les femmes enceintes sont possiblement toxiques pour la reproduction, pas top, que 43% des pesticides retrouvés chez les enfants sont des cancérogènes possibles, vraiment pas top, et que 57% étaient des perturbateurs endocriniens. Voilà, ça c'est donc vraiment un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc en fait, je ne sais plus où j'en suis, mais ça va venir. Bon, évidemment, c'est de façon que les professionnels adeptes des pesticides ont tout intérêt à ce que les chartes existent. Oui, je repasse la bande. Donc on en était au fait qu'il fallait deux conditions pour qu'on puisse réduire les distances de protection des riverains à 3 et 5 mètres. L'existence d'une charte et un matériel antidérive. Évidemment, il va de soi que les professionnels adeptes des pesticides ont tout intérêt à ce que ces chartes existent et qu'elles soient approuvées par les préfets, puisque c'est le moyen d'obtenir une réduction des ZNT. C'est même écrit noir sur blanc dans le projet de charte, page 5. Et je vous le lis. Les distances de sécurité, ZNT, ci-dessus, peuvent être réduites sous condition d'une charte d'engagement approuvée par le préfet et du respect de l'annexe 4 de l'arrêté de décembre 2019 en vigueur au jour de la mise en œuvre de la charte. Le respect de l'annexe 4, c'est celui qui parle des systèmes antidérives sur les pulvérisateurs.
Mmh. D'accord. Mais normalement, c'est des distances plutôt à 100 ou 150 mètres.
Alors ça, c'est ce que voulaient les maires et c'est ce que voulaient les ONG, les 150 mètres.
Voilà.
Oui. On en est loin, on en est très loin.
Ah ouais, c'est ça. Donc c'est énorme. Mais je ne veux pas t'interrompre trop, mais...
Non, mais c'est bien. Oui, on est très très loin. Le projet de loi, le décret et l'arrêté sont très loin des attentes sociétales dans ce domaine.
Et alors les paysans, enfin les exploitants agricoles sont informés de tous ces risques-là et de...
Ah oui. Enfin, ceux qui veulent bien l'être le sont.
Mm-hmm.
Bon, oui. pour je vais reprendre le fil. Hein.
D'accord.
Si tu veux bien.
Ouais,
mais tu reviens quand tu veux. Ouais. Au moins finir ce petit bout-là. Donc ces chartes, les professionnels, ceux qui utilisent les pesticides ont vraiment intérêt à ce que les chartes existent et qu'elles soient validées par le préfet. De plus, les choses sont vraiment bien faites. Hein. C'est l'arrêté et le décret ministériel ont bien fait les choses. C'est la profession agricole qui a été chargée de l'élaboration des chartes via les chambres d'agriculture. Et ce sont aussi les chambres d'agriculture qui sont chargées de la concertation et de la consultation publique sur ces chartes. En plus, le ministère de l'Agriculture, qui a considéré qu'il était très difficile de mener des concertations pendant le confinement, sont gentils hein, quand même, a donc autorisé le 30 mars la réduction des distances à 5 et 3 mètres, sans même que les chartes soient adoptées. À condition que ça se passe dans des départements où la concertation avait déjà été engagée avant le confinement. Et cet assouplissement, et on y a mis une frontière de date, hein, cet assouplissement vaut uniquement jusqu'au 30 juin. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans Lyon, on a aussi bénéficié de cette mesure. Alors que la consultation n'avait pas démarré dans Lyon. Hein.
C'est ça.
C'est ce qui fait que le 17 avril, nous avons fait un communiqué de presse qui a été transmis au préfet. Alors quand je dis nous, c'est une vingtaine d'associations et le collectif d'action citoyenne OGM Pesticides qui a signé un communiqué de presse contestant cette mesure dérogatoire et qui l'ont transmise à monsieur le préfet. Elle est restée sans réponse à ce jour. Enfin, un autre soutien gouvernemental a été accordé aux utilisateurs de pesticides. Tout récemment, là, c'était le 9 mai, le ministre de l'Agriculture a annoncé la création d'un dispositif national doté de 30 millions d'euros. Alors, il est destiné à aider au financement de l'achat de matériel d'épandage performant afin qu'on réduise de façon significative la dérive des pesticides. Autrement dit, on ne fait rien pour diminuer l'usage des pesticides, mais on fait beaucoup pour en permettre l'usage plus longtemps par le biais de matériel performant. Alors ces matériels performants, on peut en citer deux, des panneaux antidérives qu'on pose sur les rampes des pulvérisateurs ou des buses de précision sur ces rampes. Il va de soi que ce sont les vendeurs de ces matériels spécialisés qui doivent apprécier beaucoup ce coup de pouce. Bon, on peut aussi revenir à la charte, à notre charte départementale. Donc elle a été élaborée, elle est actuellement en consultation numérique, c'est jusqu'au 25 juin, c'est sur le site de la Chambre d'agriculture, donc comme je vous l'ai dit, et il est prévu qu'elle soit adoptée le 30 juin. Du 25 juin au 30 juin, on va faire le bilan. La Chambre d'agriculture va faire le bilan de la consultation, va transmettre le tout au préfet, et elle espère bien que le préfet va valider la charte en 5 jours. Entre-temps, donc, on a été sollicité pour remettre un avis sur le projet de cette charte avant le début de la consultation publique, l'ADENI, la LPO et Yonne Nature Environnement, soutenus par 13 autres associations, ont adressé une lettre ouverte au président de la Chambre d'agriculture pour lui dire qu'elle refusait d'être associée à cette pseudo-concertation. En fait, c'est tout bête, hein. Ce n'est pas uniquement de la faute de la Chambre d'agriculture, ce serait facile de lui jeter la pierre, mais je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le cas. C'est surtout parce que le contenu de la charte n'est pas négociable. Il est quasiment balisé par le décret et l'arrêté ministériel.
Donc ça sert à rien d'aller
Et
siéger.
ouais. Et de surcroît, l'objectif des associations, bah, on le sait, vous l'avez compris, c'est de définir un plan d'accompagnement des agriculteurs pour en finir avec les pesticides chimiques. C'est sûrement pas d'aménager l'usage de ces pesticides. Donc cette charte, elle est prévue pour aménager l'usage et permettre l'usage de ces pesticides.
D'accord.
Alors, les pesticides, comment ça marche, comment ils sont autorisés, comment on les homologue? En France, la délivrance des autorisations de mise sur le marché, qu'on appelle des AMM, a été confiée à l'ANSES. Alors, l'ANSES, je ne sais pas si je l'ai déjà dit,
Oui,
je
tu
l'ai
l'as
déjà
déjà
dit,
dit.
je n'y reviens pas. Et en
AMM,
Europe,
c'est comme pour les médicaments, AMM, en fait, c'est la
ouais,
même chose.
c'est ça. Et en Europe, ce rôle est tenu par l'Agence de sécurité sanitaire européenne, qu'on appelle l'EFSA, EFSA. Alors, ce qu'on peut constater, c'est là aussi de l'ordre du scandale, hein, c'est qu'il existe plusieurs méthodes d'évaluation des risques des pesticides, mais la plupart ont été développées ou promues par l'industrie. Par exemple, il est avéré qu'un groupe de lobby de l'agro-industrie, qui s'appelle International Life Sciences Institute, ILSI, a conçu une bonne partie de ces méthodes et qu'elle a même réussi à infiltrer des panels d'experts importants. Par exemple, elle a infiltré le panel d'experts de l'organisme européen, l'EFSA. Elle a même infiltré celui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour faire adopter ses méthodes d'évaluation à elle. Il y a évidemment, de façon certaine, un conflit d'intérêts. Là, c'est clair, ça ne peut pas être plus manifeste que ça. Bien qu'il ait été dénoncé à de multiples reprises, eh ben, ce conflit d'intérêts perdure. Après, je peux expliquer ce qui se passe lors d'une évaluation toxicologique, parce que ça aussi, c'est croquignolesque, comme diraient certains. Les molécules chimiques sont testées une par une, quand bien même on fait un produit après qui en utilise deux ensemble. On détecte essentiellement les effets à court terme, compte tenu de la durée des tests sur rats ou sur souris. Et surtout, on ne veut pas détecter les effets à long terme, ça foutrait le bazar. On n'étudie pas la bioaccumulation dans les tissus ni dans les organes, ni les effets des molécules en mélange. Donc on n'étudie pas ce qu'on appelle l'effet cocktail. Et on commence juste depuis quelques années à tester la toxicité des coformulants. Alors ce qu'on appelle les coformulants d'un produit, ce sont les solvants, les adjuvants, les mouillants, les surfactants qu'on ajoute à la ou aux molécules actives dans le produit qu'on va mettre sur le marché. Bon, c'est ceux qui permettent de fixer le produit sur la plante qu'on est en train de traiter, par exemple. Donc, c'est pas étonnant si ces évaluations, telles qu'elles sont menées, laissent passer des produits qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens. C'est pas étonnant qu'il arrive qu'après plusieurs années d'utilisation, finalement, on en vienne à retirer un produit du fait de sa toxicité sur le long terme. Je vais en citer seulement deux. L'atrazine, qui est un herbicide, qui a été retirée en 2003. Pas de bol, elle est tellement permanente, persistante dans l'environnement qu'on la trouve toujours dans nos eaux de captage. Cette atrazine qui a été interdite en 2003. Plus récemment, on peut parler du chlordécone, qui est un insecticide qui était utilisé sur les bananeraies aux Antilles. Là, on peut penser qu'on a vraiment trop tardé en France à faire cette interdiction, parce qu'aux États-Unis, ce produit avait été interdit du fait de sa toxicité sur les organes urinaires et la prostate, la vessie prostate. Du coup, on constate des cancers en excès en Guadeloupe, en Martinique. Ces cancers-là, précisément. Bon, pas surprenant non plus qu'on en vienne à homologuer des insecticides qui sont tueurs d'abeilles. Pas surprenant non plus qu'on se trouve actuellement et depuis 2018 avec une controverse sur toute une famille de fongicides qu'on appelle les SDHI. Je vais me permettre de vous lire un extrait de la revue trimestrielle de l'ADENI du deuxième trimestre 2018. C'est très court. Les SDHI agissent en bloquant la respiration des champignons et des moisissures. Cette respiration est assurée par la succinate déshydrogénase, SDH.
Oui,
Or, toutes les cellules vivantes, les plantes, les animaux, des plantes, des animaux, des hommes, utilisent le même mécanisme pour distribuer l'énergie dans les cellules. Donc, quand on arrive à bloquer la SDH, en l'inhibant, hein, on stoppe le fonctionnement des mitochondries qui assurent l'alimentation en énergie de nos cellules. Or, de très graves maladies dues à des anomalies du fonctionnement de la SDH ont été détectées chez de jeunes enfants qui souffrent d'encéphalopathie, mais aussi dans des cas de maladie de Parkinson. Du coup, en 2018, un collectif de chercheurs a lancé l'alerte sur ces SDHI, en s'étonnant qu'aucun test de toxicité cellulaire n'ait été joint au dossier de demande d'homologation de ces produits. C'est quand même une question basique. Pierre Rustin, c'est l'un des chercheurs du collectif, expliquait à l'époque, même si nous n'avons pas de preuves formelles que ces encéphalopathies peuvent être imputables au SDHI, comment ne pas se sentir concerné par la présence de ces substances dans nos assiettes à travers la contamination de nos aliments? À ce jour, l'ANSES n'a pas jugé bon d'interdire les fongicides SDHI, même en application du principe de précaution, en attendant d'en savoir un peu plus sur ces produits. Enfin, et pour en finir, parce que c'est la cerise sur le gâteau, il faut aussi savoir qu'une AMM est assortie de sa LMR, sa limite maximale de résidus admissibles dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les huiles. Parce que bien sûr, quand on traite des champs de culture, on retrouve des résidus de pesticides dans les productions agricoles. Mmh. Évidemment, c'est en application. On a fixé des LMR en application du principe bien connu, en dessous d'une certaine dose, tout produit toxique cesse d'être toxique. Ce principe est résumé par une formule qui date de Paracelse, énoncé au XVIe siècle, qui dit « c'est la dose qui fait le poison ». Ben, c'est un peu comme si on n'avait rien découvert en 5 siècles depuis Paracelse, ni sur les effets des faibles doses, ni sur les effets des très faibles doses sur la santé. En fait, parfois, un produit est encore plus toxique pour l'organisme sur le long terme à très faible dose qu'il ne l'est à des doses moyennes. C'est le cas de certains perturbateurs endocriniens, précisément. Oui. Bon, il va de soi que toute cette façon de procéder convient parfaitement au monde de l'agrochimie. C'est évident. Dans ce monde de l'agrochimie, on investit en recherche et développement, et quand on arrive à mettre au point un pesticide, ça prend plusieurs années, on cherche évidemment par tous les moyens à rentabiliser les investissements consentis. Donc il faut obtenir la précieuse AMM, quitte à cacher ou à minimiser les effets toxiques pour l'obtenir. Voilà. Donc, en fait, une des premières choses qui serait à faire, ce serait de remettre à plat le processus d'homologation et l'évaluation des pesticides que fait l'ANSES. Et surtout, garantir l'indépendance totale de l'ANSES pour éviter tout conflit d'intérêts. Bon, ce que je dis pour l'ANSES, vous l'avez compris parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut aussi et surtout au plan européen pour l'EFSA. Et cette indépendance, elle est aussi importante en ce moment pour les ZNT. Car les deux textes de loi dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont si laxistes, ils prévoient qu'à terme, les distances de protection des riverains seront fixées par ces AMM pour chaque pesticide au fur et à mesure de sa réhomologation par l'ANSES ou pour l'homologation de nouveaux pesticides. Donc voilà, voilà comment ça fonctionne. Donc en fait, ce système est vicié d'un bout à l'autre, d'une certaine façon. Évidemment, je voudrais ne pas rester sur cette note défaitiste. Il existe des alternatives aux tout-pesticides. Mm-hmm. C'est heureusement. Par exemple, il existe ce que tout le monde connaît, qui est l'agriculture biologique. Actuellement, on a plus de 40 000 paysans qui ont fait ce choix de l'agriculture biologique en France. Elle est en pleine dynamique, cette agriculture bio. Elle n'utilise pas de pesticides de synthèse. Mais ce qui lui manque, c'est d'être davantage soutenu par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Il faudrait surtout, par exemple, qu'on n'ait pas eu droit à ce qu'on a vu cette année, à savoir la suppression de l'aide au maintien en région Bourgogne-Franche-Comté, parce que la région n'a pas choisi de maintenir ces aides.
Mmh. Il faut soutenir la filière automobile.
Oui, en ce moment, il semblerait plus urgent d'aider d'autres secteurs. Bon, en même temps, il y a aussi un autre signe qui est presque C'est presque amusant par sa concomitance là en ce moment. Juste le 23 avril, un rapport a été publié. Et c'est ce rapport, son auteur, c'est Pierre-Étienne Biche. C'est un ancien préfet. Et il a été nommé coordinateur interministériel du plan de réduction de l'usage des produits phytosanitaires. En voilà un homme, avec ses collaborateurs, qui a fait un tour des régions françaises qui a duré plusieurs mois, qui a interrogé une foule de gens partout en France. Et il vient de rendre sa copie. Et il a livré des pistes dans le but de changer les pratiques agricoles. Parce que lui aussi, il a compris qu'on ne baisserait pas les pesticides sans un changement de pratique. Et je vais vous livrer quelques-unes de ses réflexions. Enfin, déjà, pour lui, il dit que les agriculteurs devraient être reconnectés à leur territoire. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que disent les ONG. Il dit la chose suivante, je le cite. « La consultation nationale sur le projet de décret des ZNT a mis au grand jour la fracture entre le monde rural et pas seulement entre les néo-ruraux d'origine urbaine et le monde agricole. » Il préconise, pour recréer un lien fort avec les territoires, de ne pas favoriser les trop grandes exploitations et aussi d'encourager la pluriactivité. Autrement dit, il souhaite des fermes plus petites et plus réactives. Autrement dit, il souhaite des paysans et pas des exploitants agricoles.
Ouais.
Aussi, il enfonce des portes ouvertes. Bon, on ne peut pas lui en vouloir, peut-être que ce sont des portes qui ne sont pas ouvertes pour tout le monde. Par exemple, il dit « les pratiques agricoles ont des impacts sur l'eau, la biodiversité ». Les milieux, les émissions de gaz à effet de serre. Ben oui. Il note aussi, selon les professionnels agricoles, le principal moteur du changement est la création de valeur ajoutée. L'agriculteur ira naturellement vers un système ou vers une production s'il y trouve un intérêt économique. Ben ça va de soi. Il pense aussi, cet homme, que la politique agricole commune devrait permettre de favoriser les filières et les pratiques vertueuses. Ben oui, c'est tout ce qu'on demande. Il suggère du coup au pouvoir public d'organiser les secteurs et notamment les débouchés pour soutenir la diversification des cultures, les circuits courts, la restauration collective, le bio dans les cantines. D'une façon assez récurrente, dit-il, nos interlocuteurs ont évoqué l'idée d'un plan national protéines animales ou protéagineux qui permettrait non seulement de contribuer à cet objectif, circuits courts, etc., mais éviterait indirectement des importations de protéagineux de l'étranger. Cela suppose sans doute de revoir certains accords internationaux. On ne peut rien lui cacher. Mais les importations de protéagineux de l'étranger, je voudrais juste signaler que la plus grosse importation de ce type, c'est le soja qui vient d'Amérique latine. Et en Amérique latine, ça a bousillé des pans entiers de forêts amazoniennes. Bon, pour en finir avec ce que dit Pierre-Étienne Biche, je vous livre sa conclusion, enfin une... pas sa conclusion, mais ce qu'il indique aussi fortement. Il dit que les pouvoirs publics doivent empêcher la concurrence déloyale et ne pas autoriser d'importer l'agriculture dont on ne veut pas en France. Autrement dit, ne pas autoriser des productions obtenues dans des conditions environnementales, sanitaires, sociales et sociales, contraires à notre réglementation intérieure. Oui. Là, c'est un point fort de rapprochement entre ce que veulent les ONG et ce que veut aussi une partie de la profession agricole. C'est vraiment une de leurs attentes, parce qu'ils ne veulent pas, eux, qu'on les contraigne à ne plus utiliser des produits utilisés ailleurs, alors qu'on importe les produits, les matières agricoles, qui ont été produites avec de cette façon-là. C'est pas normal.
Ouais.
Voilà ce que j'avais à dire. Et je pense que je vais m'arrêter si je veux laisser un peu de place aux questions quand même.
Comme tu veux, c'est comme tu veux, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai, parce que ça fait trois quarts d'heure que tu parles. Hein,
mais bientôt. Oui, finalement, hein, je m'étale.
tu vois, tu ne croyais pas. oui, ben, il y a quelques questions. Alors écoute, je ne sais pas dans quel ordre je vais les reprendre. Soit je les reprends directement dans l'ordre de ce que tu as abordé.
Comme tu veux.
Tu vois, il y avait quelque chose qui parlait de la protection des riverains, alors tu l'as abordé sur la distance. Et qu'est-ce qu'on peut... Il y a une question, c'est quelles sont les actions que les personnes peuvent mettre en place pour se protéger. Et je me souviens, il y avait par exemple la crèche d'Aillan, tu te souviens, qui était au milieu des champs, là, et
oui.
On était intervenu d'ailleurs, on avait essayé d'aider les papas et les mamans qui s'inquiétaient de ça. Alors
oui,
voilà.
Oui, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, la charte, l'arrêté, le décret dont je n'ai pas détaillé tout à l'heure, et la charte, elle prévoit des mesures d'information des populations. sur les dates d'épandage approximatives et sur les produits utilisés. Et donc ça, c'est sur la charte, c'est disponible sur le site de la Chambre d'agriculture. On voit un programme avec un calendrier approximatif des épandages. Des pesticides, des insecticides, des fongicides, des herbicides. Mais on a, ce qu'il faut, c'est dans chaque commune. En fait, ce qu'il faut, c'est que dans chaque commune, les riverains sachent si l'exploitant qui a les terres à côté de chez eux va ou non faire un épandage tel jour. Parce que dans ce cas-là, tu éviteras de faire sécher ton linge. Tu éviteras de mettre tes chiens, ton chien dehors à jouer ou tes enfants dehors à jouer. Enfin, si tu le sais, tu peux t'en prémunir à l'avance. Tu ne le sais pas, comment ? Comment peux-tu faire ? Même, quand bien même le jour de l'épandage ou au moment de l'épandage, tu n'étais pas là. Tu n'as donc pas vu qui l'a traité. Tu rentres chez toi 2 heures après ou 1 heure après. Tu dis à tes gamins, bah, allez jouer dehors. Mais tu ne sais pas qu'il y a eu cet épandage. Donc comment ? En fait, tu ne peux pas protéger tes enfants dans ces cas-là. C'est ça qui ne va pas. Donc il faudrait que cette information soit faite au plus près des riverains. Il faudrait qu'il y ait une petite alerte des riverains pour dire bah, attention, je vais un SMS ou quelque chose qui dit attention, demain à telle heure, je vais faire un traitement sur mes terres.
Ouais, mais en fait, tu crois que c'est, ils programment pas leur épandage. Ils le font s'il fait beau, s'il y a pas trop de vent.
Non, il leur arrive de le programmer quand même. Certains types d'épandages sont programmés. Oui, oui. Après, il y en a, ils sont dépendants de la météo évidemment, puisqu'ils peuvent pas épandre s'il y a trop de vent, par exemple. Oui, bien sûr. Mais je pense que on pourrait améliorer ça. Où je sais que ça complique la vie des agriculteurs. Hein. Je me mets bien à leur place là. Je vois bien la difficulté. Mais par ailleurs, je vois ce qu'il faut comprendre, c'est que ces produits sont pas anodins.
Oui, c'est ça. Alors ils peuvent traiter à n'importe quel moment, le matin, le soir, n'importe quand.
Alors ils peuvent même la plupart du temps, et ils essayent de le faire traiter de nuit parce que c'est de nuit qui bénéficient de l'hygrométrie, elle est favorable la nuit, il y a un peu plus d'humidité dans l'air, donc ça évite de surcharger en produits sur les plantes. Ça rend l'épandage plus efficace, à moindre dose. Donc, d'accord. Très souvent, quand on les voit de sortir tard le soir ou au petit matin, ne pas penser que c'est « Ah, ils se cachent parce qu'ils passent des saloperies ». Non, non, c'est parce que, justement, ils essayent d'en passer moins et de choisir le moment le plus favorable. Mais voilà, là aussi, si on ne les a pas entendus passer, on ne sait pas qu'ils sont passés.
Alors, est-ce qu'il y a des pays, parce qu'on parle de la France, un peu de l'Europe, la réglementation européenne, mais est-ce qu'il y a des pays différents ? Tu nous parlais de la Suède tout à l'heure qui interdit des produits, et pourtant, il y en a. Ça veut dire que dans le sud de l'Europe, comme tu le disais...
Alors, quand je dis le sud de l'Europe pour les Suédois, hein, ça peut être... ils sont autorisés, ces produits-là sont autorisés en France, en Belgique, donc ils peuvent voler jusqu'en Suède.
Et nous, voilà.
Les mouvements d'air sont tels qu'ils arrivent jusque chez eux. Quoi.
Mais donc il y a des prises de position par pays différentes.
Ah, selon les produits, ben oui, puisque chaque pays dispose comme nous, on a l'ANSES, les autres pays disposent aussi d'un. Il n'y a pas seulement l'homologation européenne, il y a aussi les homologations nationales. Par exemple, en Espagne, on peut utiliser des produits qu'on n'utilise pas en France. L'atrazine qui a été interdite en France en 2003, il est même possible qu'elle soit encore autorisée. Je suis pas sûr, mais elle l'était encore il y a 3-4 ans en tout cas. Donc certains agriculteurs français allaient s'approvisionner en Espagne, ceux du sud de la France, ceux d'Aquitaine, en atrazine.
Ouais.
Qui n'est pas très légal, mais bon. Mais voilà quoi. Oui, oui, les réglementations et les produits homologués ne sont pas forcément les mêmes dans chaque pays. D'autant qu'il n'y a pas les mêmes cultures dans chaque pays. Un pays de maraîchage où ne va pas avoir les mêmes besoins en pesticides qu'un pays qui pratique uniquement des céréales ou uniquement des... Oui, je ne sais pas, en Allemagne, on ne doit pas faire beaucoup de maraîchage, par exemple.
Oui, c'est ça. Ouais.
Comme on en fait, par contre, en Espagne.
Oui, c'est ça. Et alors, pourquoi le grand public a l'air d'être peu concerné par ce problème, tu vois, parce que là, on en parle, nous, mais est-ce que...
Alors, je ne sais pas s'il est si peu concerné que ça, parce qu'il y a quand même le mouvement des coquelicots,
ouais.
qui a eu qui a réussi quand même à réunir plus d'un million sept de signatures de l'appel des coquelicots. Je pense qu'il y a une sensibilisation du public, mais en même temps, il y a une ignorance du public. Donc, je crois aussi que pour être vraiment mobilisé sur une question, il faut soit, et c'est triste à dire, soit avoir été soi-même atteint, comme ces mères qui ont accouché d'un enfant mal formé. Là, c'est sûr, elles se sentent éminemment concernées, celles-là. Hein, ça fait partie des gens qui ont monté cette association phyto-victimes, ou des agriculteurs eux-mêmes victimes des pesticides, comme Paul François, mais d'autres encore. Hein.
Ouais.
Et voilà, il faut que soient médiatisés fortement des événements suffisamment dramatiques pour attirer les médias, les grands médias. Et effectivement, les maladies qui se développent à bas bruit, les maladies chroniques qui se développent à bas bruit, même les cancers sont devenus d'une certaine façon des maladies chroniques d'aujourd'hui, ça attire pas suffisamment l'attention, et puis on n'arrive pas vraiment à dire « mais ce cancer que j'ai eu, il est dû à ça ». Parce qu'en fait, notre environnement n'est pas pollué que par les pesticides. Dans notre environnement, il y a tellement d'autres polluants chimiques que c'est difficile d'arriver à pointer du doigt la responsabilité de tel ou tel. Par exemple, il faut un cancer bien spécifique, comme un certain type de lymphome qui sont maintenant reconnus comme maladies professionnelles en agriculture ou Parkinson, une certaine forme de Parkinson, parce qu'elles sont attachées vraiment au côté neurotoxique de certains pesticides. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de doute. Mais sinon, c'est difficile de faire comprendre qu'il y a un danger potentiel.
Alors, les enseignants, on n'en parle pas en SVT ou tout ça, c'est absolument pas au programme.
Écoute, je ne sais pas comment a évolué depuis 10 ans les programmes de SVT. Je suis pas capable de le dire, mais certains quand même. Il y a une initiation ou du moins des heures consacrées aux questions sanitaires et environnementales. Donc, il est très probable que beaucoup des collègues de SVT en parlent.
Oui, c'est ça.
Bon. Mais, voilà.
Alors, là, il y a une question qui est en train de m'arriver. C'est est-ce qu'il est indispensable que le monde agricole renoue un lien avec les territoires? Et dans cette optique, que sait-on des projets de résilience alimentaire locale dans notre région, notre pays et ailleurs?
La réponse, je crois que je l'ai déjà... Ah, la première partie de la question, je crois que j'ai déjà répondu. Oui, c'est indispensable qu'un lien soit retissé entre les paysans et le territoire sur lequel ils travaillent. Parce que c'est la seule façon, en fait, Et il n'y a pas que le problème des pesticides, il y a aussi le problème de la fertilisation. C'est la seule façon de refaire un tout cohérent dans nos productions. On ne peut pas avoir une région ultra spécialisée en céréales et puis une autre, comme la Bretagne, ultra spécialisée en élevage. C'est un non-sens écologique, c'est un non-sens social aussi. En fait, en Bretagne, ce surcroît d'élevage industriel fait qu'il y a un surcroît de lisier, de fumier qu'ensuite on ne peut pas transporter sur des centaines de kilomètres pour les amener dans une autre région qui en aurait besoin. Donc, on épand malgré tout en Bretagne et qui provoque ces désastres, ces marées vertes, ces algues vertes. Voilà. Et puis, cette eutrophisation des rivières et puis cette pollution au nitrate des eaux. C'est dramatique. Et puis, par ailleurs, ne pas avoir d'élevage. L'élevage réparti, c'est ce qui permet d'avoir sa propre fertilisation organique sur la ferme. Donc, polyculture-élevage, c'est un idéal, mais c'est un idéal dont on s'est tellement éloigné depuis les années 50 que ça va être dur d'y revenir. Alors, on peut avoir sur un même territoire des éleveurs et des productions agricoles, de l'élevage des productions agricoles, pas nécessairement menées par la même personne, mais menées côte à côte sur des terres proches. Voilà. Et après, oui, reconnecter, refaire des liens, c'est refaire des liens aussi, et effectivement, c'est recréer de la résilience des territoires, c'est-à-dire rendre des territoires plus autonomes dans leur production, que ce soit en légumes, en fruits, en production fourragère, en production d'œufs, de lait, de produits laitiers, de légumes de plein champ, et de céréales évidemment, et puis d'avoir la meunerie qui va avec, la boulangerie qui va avec, enfin tout un système qui peut être en circuit très court dans une sur une région, enfin, plus ou moins court, hein.
Mais oui, parce que tu vois, par exemple, dans l'alimentation, la notion de production locale, c'est 150 km,
C'est
par
ça,
exemple.
oui.
Alors,
Ça, c'est l'idéal, ce rayon-là est idéal. Ne serait-ce aussi que pour approvisionner les cantines.
Alors,
Parce que
t'as vu,
c'est...
il y a un groupe qui se met en place en Puisaye, qui s'est appelé le Graal, là.
Oui.
C'est intéressant, ça, comme démarche aussi, comme.
Oui, c'est intéressant. Et puis ça densifie les initiatives de ce type. Il y a un autre petit groupe de personnes qui s'est lancé un défi à Saint-Léger-Vauban, au sud d'Avallon, dans le même état d'esprit. Et c'est vraiment ce genre de choses qui va finir par donner des idées, sensibiliser. Ce mot n'est pas bon, hein. Aider les gens à prendre conscience, aider les habitants d'un secteur à prendre conscience de ce qui fait la leur c'est quoi mon alimentation, quoi. Qu'est-ce que je peux faire moi? Et c'est puissant ce qu'on peut faire nous, parce que c'est vraiment ce qu'on consomme, c'est vraiment l'acte de consommation. En termes alimentaires, il n'y a pas plus fort comme possibilité. Nos choix alimentaires, en fait, ils font une pression énorme sur les productions. Nous, on achète plus de bio, il y a un besoin énorme en bio. D'ailleurs, on voit, c'est le cas. C'est même actuellement presque vicieux, puisqu'on est obligé d'importer. On n'arrive pas en France à produire assez de bio pour tous ceux qui souhaitent en acheter en France. C'est un encouragement à ce que des bio s'installent. C'est le cas d'ailleurs, hein, ils s'en installent.
Ouais, pas mal.
Et ça marche, ça. Voilà, on voit que ça fonctionne. Même des trucs dans un autre genre, dans un autre esprit, hein, c'est qui le patron? Le truc, c'est qui le patron? Qui fait que les produits laitiers ou les produits maintenant aussi des charcuteries sont vendus à des prix satisfaisants pour le producteur. Avec donc un peu plus cher, mais le consommateur n'y perd pas non plus parce qu'il a des produits de meilleure qualité. Et il a défendu et il a permis à des producteurs locaux d'améliorer leurs pratiques. C'est pas forcément du bio là, mais au moins c'est du local et c'est du. Oui, c'est une production paysanne, voilà.
Ouais, voilà. Bon, eh bien, écoute, je sais pas, on a bien fait le tour. Moi, j'ai plus tellement de questionnements. Je sais que Eliane a réussi à faire l'introduction, à faire sa Catherine Langer là de départ, et donc parce qu'elle a eu un problème technique, elle voudrait bien faire une conclusion. Donc, il faudrait
Eh ben, il
que
faut y aller.
il faut, voilà, attends. Alors, je ne sais pas si Kamel a pu lui ouvrir la ligne. Parce que voilà, parce que ben, elle n'arrivait pas à voir le pad. Mais donc, ben, écoute, déjà, en attendant qu'on l'entende, Eliane, moi, je tiens à te
Il est
remercier
là.
beaucoup. Ah, ben voilà, elle est arrivée.
Je t'en
Donc,
prie. Je vous en prie.
on va lancer.
Bonsoir à tous. Vous avez assisté à notre soirée Arsenic, glyphosate et vieilles ficelles qui vous a été tricotée avec brio par Sylvie Beltrami de l'Association de défense de l'environnement et de la nature de Lyon et qui a pulvérisé les records d'audience ce soir sans respecter les distances sanitaires. Notre système agricole est devenu fou. Seule l'agriculture biologique peut la neutraliser. Soutenez-la. À vos grelinettes citoyens. Merci Sylvie pour cet éclairage. Je t'embrasse.
Moi aussi.
Voilà, bon ben, Eliane est revenue parmi nous, donc. Donc on va s'arrêter là. Donc vraisemblablement la semaine prochaine on n'aura pas de session. Alors vous pourrez réécouter y compris celle-ci, et dire à vos copains qui étaient pas là qu'ils peuvent aller sur le site de C3V et les conférences sont audibles, hein, que ce soit sur la médecine, sur le nucléaire, sur l'économie, etc. Et puis celle-ci, donc, et sur la dette aussi, celle de Nicolas Sersion.